Crédit Immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Le vendredi rime avec libre antenne. Aujourd'hui, vous avez choisi d'évoquer la dissolution en Côte d'Ivoire de la FESI, le puissant syndicat étudiant qui semait la terreur sur les campus. Vous débattrez du projet controversé de révision de la Constitution en RDC. Vous échangerez sur les chances respectives de Kamala Harris et Donald Trump à 4 jours de la présidentielle américaine. Et nous terminerons cette libre antenne avec un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, l'attribution du Ballon d'Or 2024 à l'Espagnol Rodri, alors que le Brésilien Vinicius était archi favori. La libre antenne, c'est dans une demi-heure, mais d'abord, comme chaque matin, vos questions sur l'actualité, la rédaction de RFI et des experts sont là pour vous répondre. Direction le Sénégal, où la campagne pour les législatives du 17 novembre est de plus en plus tendue. Des affrontements ont opposé mercredi dans le centre du pays, partisans du PASTEF, le parti au pouvoir, à ceux de la coalition de l'ancien président Macky Sall. Et le QG de campagne de l'opposant Barthélémy Diass, maire de Dakar et tête de liste de la coalition Samsa Kadou, a été incendié. Sidiki Gladys, bonjour. Allô, allô, Sidiki ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Conakry en Guinée. Également en ligne avec nous, Léa Léza Westerhoff, correspondante permanente de RFI à Dakar. Bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour Sidiki Gladys.
Sidiki Gladys, on vous écoute, vous avez la parole.
Ok. Au Sénégal, le siège de campagne de l'opposant Barthélémy Diass a été vandalisé. J'aimerais savoir, que sait-on sur ce qui s'est passé et pourquoi la coalition menée par le maire de Dakar accuse les militants du PASTEF?
Léa Léza Westerhoff.
Alors, sur ce qui s'est passé, l'attaque a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Sur les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, on voit bien une dizaine d'individus qui lancent des pierres en direction de l'immeuble du siège de campagne avant d'y jeter des projectiles enflammés. Heureusement, aucun blessé au final, mais les dégâts matériels sont importants. Tout le premier étage est brûlé et le matériel informatique a été complètement détruit.
Et jusqu'à présent, aucun assaillant n'a été publiquement identifié ?
Non, le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête lundi et selon la presse, 2 personnes ont été interpellées sans plus d'informations pour le moment. Ce qu'on sait par contre, c'est que cette attaque du siège de campagne du maire de Dakar, Barthélémy Diass, est intervenue quelques heures à peine après des déclarations incendiaires de la tête de liste de la formation présidentielle, le PASTEF, dans le département de Dakar, Abbas Fall, avait en effet appelé ses militants, je cite, à s'armer de couteaux et de machettes pour se défendre des attaques du camp adverse. Pourquoi ce coup de sang? Car un peu plus tôt dimanche, le PASTEF affirme de son côté avoir vu sa caravane de campagne attaquée par des partisans du maire de Dakar, justement, dans un quartier du centre-ville, faisant plusieurs blessés.
Et tout cela s'est passé finalement quelques heures à peine après l'ouverture de la campagne électorale dimanche.
Oui, et si toute la classe politique a à l'unanimité condamné la vandalisation du siège de campagne de Barthélémy Diass, on le voit bien, l'ambiance est électrique ici et ce problème de violence en période électorale est malheureusement chronique.
Sidiki Gladys avait une autre question, je la rappelle. Pourquoi la coalition menée par le maire de Dakar accuse-t-elle les militants du PASTEF ?
Alors c'est justement du fait de cette chronologie que je viens de décrire. Abbas Fall profère des menaces, appelle à la violence et quelques heures plus tard, comme par hasard, le siège de campagne de la coalition Samsa Kadou, visé par ces menaces, est attaqué. Alors voilà pourquoi les militants du PASTEF sont soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque. Mais je le répète, pour le moment, aucun élément factuel ne permet de le dire avec certitude. Abbas Fall lui-même, le responsable politique du PASTEF, a fini par s'excuser dans une vidéo 24 heures après d'avoir tenu de tels propos. Cet incident, vous l'avez dit, n'a pas empêché de nouveaux cas de violence. Avant-hier, dans le centre du pays, ce sont des partisans du PASTEF et de la coalition menée par l'ancien président Macky Sall qui en sont venus aux mains avec jets de pierre, bagarres, lorsque leurs caravanes de campagne se sont croisées dans le centre du pays. Donc on le voit, le problème est régulier et les autorités ont du mal à le résoudre.
D'où l'initiative de 15 organisations de la société civile qui ont créé le collectif Promouvoir la paix.
Oui, ce collectif va à la fois déployer 1500 observateurs pour ces élections législatives, mais aussi travailler, disent-ils, sur un plus long terme à mettre fin à ce réflexe de la violence en période électorale, avec une dizaine de responsables de la société civile qui devraient être déployés dans tout le pays et qui va se concentrer sur ces questions de résolution de conflits. Mais en attendant, ces organisations ont aussi interpellé les autorités en début de semaine en demandant à ce que les personnes qui se rendent coupables d'actes de violence soient systématiquement interpellées et entendues par la justice, mais aussi les responsables politiques qui sont derrière ces militants pour éviter qu'un climat d'impunité, disent-ils, entretiennent en fait cette banalisation de la violence selon la société civile.
Merci beaucoup Léa Lisa Westerhoff pour ces précisions. Sidiki, Gladys, merci de nous avoir appelés. Bon week-end à tous les deux. Après 2 ans et demi de guerre avec la Russie, l'armée ukrainienne a bien du mal à renouveler ses effectifs. Alphonse, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Lubumbashi en RDC. En ligne avec nous, Ulrich Buna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste en géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, chercheur associé à l'Institut Open Diplomacy. Alphonse, on vous écoute.
Merci Chantal. Je salue tout d'abord Elsa Vidal et Emmanuel Chaz, les correspondantes de RFI en Russie et en Ukraine.
C'est très gentil à vous.
D'accord. L'Ukraine a annoncé une nouvelle campagne de mobilisation afin de réunir 160 000 soldats. 160 000 nouveaux soldats. J'ai deux questions à ce sujet, Chantal. La première, pourquoi l'Ukraine peine-t-elle autant à recruter des hommes?
Ulrich Buna.
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé au tout début, ça fait déjà plus de 2 ans et demi que l'Ukraine est en guerre. On va dire que l'enthousiasme initial pour défendre le pays est quand même un peu retombé, d'autant plus qu'on est désormais dans une bataille d'attrition extrêmement violente et que toutes ces images en fait du front, des blessures, des morts, etc., toutes ces images, elles reviennent en fait dans la population civile ukrainienne. Donc il y a effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de s'engager maintenant qu'il y a 2 ans et demi, et ce d'autant plus que les soldats qui s'engagent, en fait, il n'y a pas vraiment de date de fin. C'est l'une des demandes récurrentes de la part des soldats, c'est qu'effectivement, lorsqu'on s'engage aujourd'hui dans l'armée ukrainienne, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sortira, peut-être à la fin de la guerre, mais qui peut être terminé dans plusieurs années. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de base de données centralisée de l'ensemble des soldats, enfin en tout cas des personnes que l'on peut appeler dans l'armée. Donc c'est quelque chose qui a été résolu par une loi qui est passée il y a quelques mois, mais effectivement, l'armée ukrainienne n'avait pas véritablement de base de données centralisée où pouvoir aller chercher les personnes à appeler. Et dernier point, qui est un point aussi assez important sur lequel l'État ukrainien essaie d'agir, c'est la corruption. Il y a énormément de personnes qui arrivent à passer entre les mailles du filet en payant des médecins pour avoir des dispenses finalement et pour éviter d'être appelé. Donc effectivement, c'est un troisième problème qui explique les difficultés de recrutement.
Et on sait à peu près combien d'Ukrainiens ont pu échapper à la mobilisation, soit en quittant le pays, soit en produisant par exemple de faux certificats ?
C'est bien évidemment un chiffre dur à donner. En ce qui concerne les désertions et les capacités à sortir du pays, on est probablement à plusieurs centaines de milliers. Pour ce qui est de ces gens qui obtiennent via la corruption des documents, c'est difficile à dire, mais en revanche, il y a un chiffre qui circule qui donne à peu près l'ampleur du phénomène. L'État ukrainien estime qu'il y a environ 1,5 million de personnes qui ont bénéficié d'exemptions. Ce chiffre paraît colossal comparativement aux personnes qui normalement doivent en bénéficier, à savoir les personnes qui travaillent par exemple dans les industries clés. Il n'y a pas 1,5 million d'Ukrainiens qui travaillent dans ce genre d'industrie.
Alphonse, vous avez une autre question?
Oui, voilà. Comment les pays comptent-ils s'y prendre pour attirer autant de nouveaux soldats dans ses rangs?
Ulrich Buna.
Comme on vient de l'aborder, la lutte contre la corruption et contre les exemptions un petit peu obtenues de cette façon. Donc ça, c'est la première chose. Il y a énormément d'arrestations ces derniers temps en Ukraine, justement, de médecins ou de personnes dans les commissions qui donnent les exemptions qui ont été arrêtées pour corruption. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi une révision plus globale, en fait, des procédures de recrutement. Les Ukrainiens se plaignaient énormément du fait que c'était un petit peu arbitraire, que les formations n'étaient pas complètement adaptées. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est en train d'être revu. Il y a une volonté aussi d'essayer de faire coller un petit peu les besoins de l'armée ukrainienne avec les capacités des gens. On voit Si vous voulez, le processus de recrutement n'est pas forcément complètement centralisé en Ukraine. Il y a des brigades qui recrutent par elles-mêmes, par exemple des pilotes de drones, ce genre de choses. Donc finalement, l'idée est un peu de dire aux Ukrainiens, si vous êtes capable par exemple de piloter un drone, eh bien, pourquoi pas s'engager chez nous en tant que pilote de drone et donc pas dans l'infanterie en première ligne. Donc ça effectivement, on voit ces espèces de bourses de l'emploi en quelque sorte qui sont un peu mises en place, qui peuvent aider. Et le dernier point, c'est la coercition. Très clairement, sur les 160 000, il y a des gens qui vont être convoqués, qu'on arrêtera dans la rue et qui effectivement n'auront pas trop le choix. Donc ça va être un petit peu un mélange de tout ça, un mélange de coercition et on va dire d'incitation de différentes façons pour essayer de faire venir les gens.
Merci beaucoup Ulrich Bouna pour ces explications. Alphonse, bonne journée à Lubumbashi. Au Soudan, une nouvelle milice armée, le Bataillon de l'Est, est désormais impliqué dans la guerre. Une guerre civile qui depuis un an et demi a fait entre 20 000 et 150 000 morts et a déplacé 14 millions de Soudanais. Herman, bonjour.
Bonjour Madame Chantal.
Vous nous appelez de Koudougou. En ligne avec nous, Marc Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique et du Moyen-Orient. Herman, c'est à vous.
Au Soudan, une nouvelle milice alliée à l'armée régulière s'est ajoutée au conflit. Que sait-on de cette milice? Quelles sont ses capacités?
Marc Lavergne, alors d'abord, que sait-on de cette milice, cette nouvelle milice?
Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle milice, c'est-à-dire que c'était déjà des combattants, mais qui étaient du côté des forces de soutien rapide et qui ont basculé du côté de l'armée. Donc, ça ne fait pas de soldats en plus dans le conflit. Si vous voulez, c'est simplement un basculement qui est stratégique parce que c'est une milice extrêmement capable, puissante et qui contrôle une région très importante du Soudan, c'est-à-dire le grenier du Soudan en quelque sorte.
Elle dispose de combien d'hommes ?
Alors, on ne sait pas exactement, ça doit être quelques dizaines de milliers, mais surtout, ce sont des hommes bien formés, qui ont été formés en Érythrée, ce qui pose la question de l'intervention de l'Érythrée, pays voisin, dans le conflit, aux côtés de l'armée soudanaise. Et c'est tout l'est du Soudan, finalement, ce Soudan utile, qui bascule du côté d'États puissants et d'États qui veulent l'emporter. Ça affaiblit aussi les forces de soutien rapide qui sont basées au Darfour, qui tiennent une grande partie de la capitale, mais qui sont vraiment sur la défensive aujourd'hui.
Herman, vous avez une autre question pour Marc Lavergne.
Hello?
Herman,
oui,
vous êtes toujours là?
Peut-elle faire basculer le cours du conflit en faveur de l'armée régulière du général Al-Burhan?
Oui, je pense que de toute façon, s'il y a eu ce basculement de quel le chef de cette milice du côté de l'armée, c'est que déjà la balance tourne, même sur la scène internationale, si vous voulez. Il a choisi le camp de ceux qui ont des chances de l'emporter, c'est-à-dire l'armée régulière. Donc ça va renforcer les choses et je pense que les forces de soutien rapide sont en difficulté au Darfour qu'elles contrôlent presque totalement, mais elles encerclent la capitale depuis longtemps et elles n'y arrivent pas parce que là aussi il y a des milices qui ont rejoint l'armée en quelque sorte ou qui s'opposent à ces forces de soutien rapide. Ce sont des milices de peuples qui ne sont pas arabes, si vous voulez, des peuples de paysans africains qui se réunissent pour lutter contre les forces de soutien rapide qui, jusqu'à présent, semblaient l'emporter avec le soutien de la milice Wagner, de la Russie, des Émirats Arabes Unis et qui contrôlent les champs de mines d'or du Soudan.
Et les FSR, vous le disiez, qui multiplient les exactions contre les civils dans la vallée du Nil, avec des enlèvements de femmes et de fillettes à des fins d'esclavage sexuel. Et à part les condamnations de l'ONU et de Washington, il ne se passe rien. Cette guerre continue à déchirer, à dévaster le Soudan, sans aucune lueur d'espoir au niveau diplomatique.
Oui, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des négociations. Il y en a à Addis Abeba, la capitale de l'Union africaine. Il y en a au niveau de la Corne de l'Afrique. Il y en a avec l'Arabie saoudite. Il y en a avec l'Égypte. Il y en a comme ça beaucoup. Mais rien n'avance parce que les pays occidentaux, finalement, se désintéressent largement de ce conflit qui est pourtant essentiel puisque c'est un pays important, le Soudan, d'un point de vue stratégique, mais aussi par le poids de sa population, par sa position position à cheval entre le monde arabe et l'Afrique. Donc, c'est assez dramatique, cette situation, avec ces forces de soutien rapide qui sont finalement que des brigands et des pillards et qui violent, comme vous l'avez dit, hein, qui commettent des crimes monstrueux, mais qui n'ont pas envie de construire un État, de prendre un État, mais simplement de piller ses ressources.
Merci beaucoup, Marc Lavergne, d'avoir été en ligne avec nous. Herman, j'espère que vous êtes satisfait.
Oui, très satisfait, Madame Chantal.
Eh bien, tant mieux. Merci, Herman, de nous avoir appelés et bonne journée à tous les deux. On termine cette première partie d'appel sur l'actualité avec un œil sur les réseaux. C'est votre nouveau rendez-vous du vendredi. Jessica Taïeb, bonjour.
Bonjour Chantal.
On en a déjà pas beaucoup parlé cette semaine, Jessica, mais la polémique a duré toute la semaine sur les réseaux sociaux. Vous nous parlez ce matin de la cérémonie du Ballon d'Or, cérémonie qui récompense notamment le meilleur footballeur de la saison.
Oui, ce lundi 28 octobre, toute la planète football avait les yeux tournés vers le théâtre du Châtelet à Paris. Un grand favori pour le précieux trophée, l'ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Et tout le monde était convaincu de sa victoire, les réseaux sociaux aussi. Lui-même d'ailleurs s'y voyait déjà, seulement voilà, surprise, c'est le milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri, qui a été sacré Ballon d'Or. Et le club madrilène, déjà au courant de la nouvelle quelques heures avant la cérémonie, a boycotté la soirée. Aucun membre de sa délégation n'a fait le déplacement à Paris.
Et c'est à partir de cette annonce de boycott que les réseaux sociaux ont commencé à s'enflammer. Tous ceux qui étaient persuadés que Vinicius allait gagner ont sévèrement déchanté.
Eh oui, les mots Rodri, Vini et Carvajal ont été les mots les plus tweetés de X pendant plus de 3 jours. En tout, on est quand même à plus de 4 millions de commentaires sur ce sujet. Et là, c'est sans compter les vidéos de réactions en direct sur Instagram et sur TikTok.
Et les débats autour du vainqueur du Ballon d'Or, c'est tous les ans. On se souvient notamment des duels acharnés entre Ronaldo et Messi.
Eh oui, et cette année, on a aussi deux clans bien distincts sur les réseaux. Ceux qui défendent Rodri et ceux qui pensent que Vinicius s'est fait voler sa victoire. Alors, je vais vous citer quelques commentaires, Chantal, postés sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Et on commence fort avec la colère des défenseurs de Vinicius. Ballon d'or de la honte, jalousie, discrimination, racisme et népotisme, les éléments qui font notre monde d'aujourd'hui. Vini reste le meilleur joueur du monde. Et un autre, quelle stratégie de France Football, inviter Georges Weah pour éviter qu'on parle de racisme. L'histoire retiendra que Vinicius est le Ballon d'Or de l'année 2024. Et on continue un peu dans le même registre. Vinicius a éliminé Rodri en quart de finale, puis il a remporté la Ligue des Champions en marquant en finale. Il a été meilleur joueur du tournoi. Franchement, c'est du racisme. Et un internaute qui a une vision sur le long terme. Il est temps que d'autres pays créent leur Ballon d'Or avec différents critères.
Des avis effectivement très tranché. Mais est-ce que des internautes, Jessica, ont quand même salué le Ballon d'Or de Rodri?
Forcément, il y en a pour tous les goûts. Sur X, des vidéos vues des centaines de milliers de fois montrent des gestes d'anti-jeu de Vinicius avec ce genre de commentaires. Je ne vois pas comment le football peut honorer ce joueur. Ou encore, l'un des critères pour devenir Ballon d'Or, c'est le fair play et le respect sur le terrain. Regardez ce que Vinicius fait. Et enfin, Vini est un grand joueur, mais malheureusement, il a plus d'arrogance et d'agressivité que de talent.
Et pendant ce temps-là, Rodri a été filmé dans un restaurant parisien en train de fêter sa victoire.
Et oui, la vidéo a été postée sur le compte de Manchester City sur X. Elle a ensuite été reprise un peu partout sur les réseaux sociaux et vue par plus de 6 millions de personnes.
Merci Jessica.
Merci.
On reparlera du Ballon d'Or au cours de la Libre Antenne, juste après le journal Afrique.
Les pattes.
Un podcast RFI.
Penaï Traoré.
Après une première saison sur la place des femmes dans les sociétés africaines dans l'ère post-MeToo, je vous reviens pour une saison 2. Et cette fois-ci, je m'intéresse aux inégalités de genre, aux mécanismes de la domination masculine et plus spécifiquement aux masculinités noires. Alors, retrouvez-moi dans les 10 épisodes de la saison 2 de Ballet Pattes.
Ballet Pattes, à écouter sur les sites et applications de RFI et toutes les plateformes de podcast. Portrait libre sur RFI.fr.
Perruquier phare du milieu des drag queens, Christophe Meka imagine son art, diabolique, effrayant, clownesque ou cauchemardesque. Dans ses créations fantaisistes, parfois plus sculpture que perruque, ce natif du sud de la France mêle des volumes irréels à des formes qui défient la gravité. Christophe Meka, référence de la perruque façon drag queen, un portrait libre à découvrir sur RFI.fr et l'application de RFI.